Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1987, à l'occasion de la sortie de Soigne ta droite, Serge Danet recevait Jean-Luc Godard pour deux numéros de microfilm, l'occasion pour ces deux amoureux de tennis d'échanger quelques balles. En 1987, Godard approche la soixantaine et Serge Danet prend de ses nouvelles, donc des nouvelles du cinéma et des nouvelles du monde tel qu'il venait alors à Godard. Balle neuve, au service Danet, Godard retourne et monte au filet dans ce premier set titré « Cinéma et télévision ».
Microfilm. Microfilm, bonsoir. Quelqu'un dont on a plutôt pas mal parlé dans cette émission, même en filigrane, toujours un peu à l'arrière-plan, est là devant nous, Jean-Luc Godard. Un film vient de sortir, Soigne ta droite. Inutile de dire qu'on est assez content de l'avoir à microfilm. C'est pas très très facile de poser la première bonne question, donc je ferai un petit topo de mise en train, en disant c'est devenu très difficile de parler à Jean-Luc Godard autrement que dans le code qu'il a lui-même à la longue, je dirais pas imposé, mais soufflé aux gens. Par exemple, quand le film est passé hier, une projection privée où il y avait beaucoup beaucoup de monde, une vraie projection privée finalement, il y a une conférence de presse après, et les gens lui ont dit « Jean-Luc Godard, comment ça va ?» Or, « Comment ça va ?» est le titre d'un film de Godard, assez peu connu, qui n'avait pas eu un grand succès à l'époque. Et on dirait qu'il y a comme ça un petit nombre de cinéastes, et à mon avis c'est comme ça qu'il faudrait reparler de la question de qu'est-ce qu'un auteur au cinéma, à qui on ne demande plus que voulez-vous dire ou quel est votre message, comme on disait avant à Bergman ou Fellini, mais comment ça va, comme si c'était important qu'un petit nombre de gens qui font du cinéma, dans l'environnement, bon, de plus en plus connu et pas très gai des médias, c'était important d'avoir de leurs nouvelles. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ou qu'ils soient en forme ou pas. Et on a tendance à avoir besoin qu'ils fassent des films pour donner à la fois des nouvelles d'eux et des nouvelles du monde, puisqu'ils regardent un petit peu plus le monde que ce qui nous en parvient dans les médias. Donc, je jouerai le jeu et je dirai, Jean-Luc Godard, comment ça va ? Moi, j'ai le sentiment que ça va plutôt bien.
À part la fatigue, oui.
Tu as parlé, par exemple, de la forme physique. C'est quelque chose qui te...
Qui
te tarabuste beaucoup.
Ah ben, je m'aperçois, oui, que j'ai un peu... Je vivais... Mon corps m'a fait crédit longtemps et que là...
Et en même temps, tu dis ça au moment où, dans le film, tu n'as pas peur de faire carrément des calibettes au début, dans la première scène,
qui
est carrément
burlesque. Ça, c'est rien.
Tu n'aurais pas pu en faire plus.
Non, pas vrai, non plus. Il faudrait que je m'entraîne un peu. J'admire Yves Montand, enfin pour ça, si tu veux, qui continue à faire de la barre encore ou des choses comme ça, et qui a... Je parle même pas de Jerry Lewis, si tu veux, qui a... Je pourrais pas faire physiquement ce qu'il a fait dans glisser sur le carrelage comme il faisait dans son film, là, qui a eu peu de succès en arrivant chez le psychanalyste. Des choses comme ça. Il faut beaucoup s'entraîner. Là. Enfin, il y a des choses que je faisais physiquement, mais il faudrait que je refasse un petit peu. Ça, je ne peux plus faire, mais je regrette un peu.
Parce qu'on ne parle jamais du cinéma, du fait de faire des films comme d'un exercice très physique.
Qui c'est très physique, oui, très complètement. Complètement, je veux dire, un romancier, un peintre, un musicien, un peu encore. Chef d'orchestre, un peu moins. Il y a un effort physique à faire, mais il peut peut-être faire semblant. Et c'est l'orchestre, s'il a un bon orchestre, qui dirige le cinéma, tu peux pas. Ce qui fait que 75 ans, 70 ans, les assurances couvrent plus. Il y a un effort physique énorme de la. Enfin, c'est principalement un effort physique, je veux dire, de presque tout. Presque ouais. Comparé au football, je veux dire, avec des démarrages, des arrêts, on s'assoit. Enfin, il y a un effort physique dont je commence seulement à m'en rendre compte, et mon corps m'a fait crédit. J'avais eu un très bon entraînement de par ma jeunesse, et puis maintenant, ça que j'ai trop tiré, donc. Puis on le sent par rapport à l'esprit. Il y a un équilibre écologique qui a tendance à se rompre, et que maintenant je sais plus. Du reste, moi, j'ai pendant longtemps couché tôt, levé tôt, et maintenant je sais pas quand, si je dois me lever tôt ou me coucher tard ou me lever tard. J'arrive ni à me coucher tard, et puis mais j'arrive plus à me lever tôt non plus.
Quand tu vois les films des gens qui sont donc plus jeunes que toi, tu trouves cette sorte de forme physique.
Ouais, mais là, il y a un problème. Je me suis aperçu en quittant Paris, en y revenant régulièrement comme un point d'attache. Et là, que je travaille, qu'il y a une partie des affaires, donc je suis entre deux mondes. Et surtout, j'ai moins la possibilité de. Il n'y a qu'à Paris qu'on voit beaucoup de films. Je pense que c'est pour ça que l'histoire de la crise du cinéma se débat encore là, si tu veux. En plus que c'est en France, que c'est quand même la nouvelle vague qui a fait qu'il n'y a qu'à Paris qu'on voit des films. On peut voir 900 Galilée, tu peux toujours essayer d'aller le voir à Los Angeles ou
dans les pays arabes.
À Moscou, à peine.
Pas du tout.
Dans les Pays-Bas, tu vois, pas du tout. Tu vois pas, Bergman, je peux pas voir à Genève. Enfin, Donc, je vois beaucoup moins de films, et ça me. Même à des moments, quand j'irai voir, ça me manque, parce qu'on peut pas y aller comme ça. Ou si je viens à Paris deux jours, je peux pas aller voir cinq films comme avant. Je suis pas disponible comme ça. Donc, la question que tu poses, je peux pas dire, parce que je les vois trop peu.
Parce qu'on a l'impression que plus tu es conscient de ce qui arrive à tout le monde, c'est-à-dire le vieillissement, un certain engourdissement physique, qui est une fatalité quand même. Et plus en même temps, dans les films, il y a... alors on dit, il a du punch, il a du tonus, il a...
Non, je pense qu'en gros, il y en a moins, mais c'est peut-être parce qu'on vieillit. On dit qu'il y en avait plus avant. Il y en a un peu moins, je ne sais pas. TV Wonder a quand même moins que dans un... Enfin, je ne sais pas, on peut pas tout faire. Les peintres, peut-être, plus... Et à un moment où la peinture... Non, là, je crois qu'il y a moins. Il y a moins de... Et il y a une loi. Les films, autrefois, pouvaient être jeunes, mais ils ne s'adressaient pas à la jeunesse. La jeunesse y allait, la vieillesse aussi, et surtout l'âge moyen. Les gens d'âge moyen, aujourd'hui, ne vont plus au cinéma. Et ils vont à la télévision à corps défendant, je dirais. Beaucoup plus à corps défendant, c'est pas un vrai public, mais il a déserté les salles, c'est normal, et il n'a plus les films qu'il voudrait voir. Donc, alors on cible, comme on dit, une jeunesse. Cette jeunesse représente une petite partie de la population, puisque dans le monde occidental, la démographie, etc. Donc, et il y a une loi la loi de Lavoisier, rien. Tout s'équilibre. Si le public est jeune, les films peuvent plus l'être.
Parce que cette question du public adulte, on n'en parle plus du tout, alors que je me souviens que c'était un grand motif de bagarre dans les années 60. On disait il faut que le spectateur devienne adulte. On parlait beaucoup d'Antonioni, par exemple, comme un cinéaste qui ne pouvait pas intéresser les enfants pour des raisons, ou même les jeunes pour des raisons de sujet. Et maintenant, on ne parle plus du tout de ce mot d'adulte. On dirait qu'on a totalement renoncé. Et ça m'a frappé dans... Ce énième débat que tu as eu avec une salle, comme tu sais maintenant très bien, à la fois les faire et écouter les gens et leur répondre, faire un peu de tennis avec eux. Certains criaient parce que tu leur donnais pas la séduction qu'ils attendent toujours du cinéma. Donc c'était « traitez-nous comme des enfants, séduisez-nous ». Mais plus personne disait « ah, le film, il fait réfléchir, il fait penser, c'est bien ». C'est toi qui faisais finalement cette réponse en disant « oui, je suis un chercheur ». Et on dirait même qu'on a presque régressé par rapport à ça, puisqu'on ne sait pas finalement ce que serait qu'un public adulte. Est-ce que c'est même pensable, un public qui ne serait plus enfant ?
Non, je ne pense pas. Il aurait pu l'être un peu par le cinéma. Il l'a été, mais on ne l'a pas vraiment lu. Puis après, ça a dévié. On peut peut-être dire même les dinosaures ont disparu. C'était les vrais premiers adultes. Et puis ils ont disparu parce qu'ils étaient trop grands, justement. Il y a cette phrase de Malraux que j'ai mis dans un moment que dit François Perrier, qui était dans... D'abord, tout le monde est plus malheureux qu'on ne croit. Et puis, le fond de tout, c'est qu'il n'y a pas de grande personne. Et que ce n'est pas un des auteurs, un des chercheurs les plus tabous aujourd'hui. Picasso est connu, Einstein est connu, des choses comme ça. Freud est complètement est méconnu, alors que c'est un chercheur d'une même dimension, si tu veux. Et c'est le seul qui permettait à l'enfant de garder l'enfance tout en grandissant avec son corps, et que c'est ça qui est, je crois, un peu tabou, qui fait quand on voit la politique ou comme ça, effectivement, quand on voit, enfin nous qui avons fait du cinéma, quand on voit, on préfère Laurel et Hardy à Reagan et Gorbatchev, si tu veux, parce que on trouve qu'ils font mieux leur truc.
Parce que l'enfance, en même temps, c'est pas uniquement, disons, les effets spéciaux, le rêve, l'évasion. C'est aussi quelque chose qui appartient à l'enfance, qui est le petit microscope, la science, observer, regarder, le côté naturaliste. Beaucoup d'enfants sont passés par là, ils ont fait des herbiers, etc. Et quand on voit tes films, on dit, mais il devrait toucher cette part d'enfance-là, pas la part d'enfance, disons, que Spielberg gère de son côté, Walt Disney, que nous, on fera jamais aussi bien, finalement.
Oui, mais eux, c'est enfance, c'est enfantillage, si tu veux.
Infantilisme.
C'est infantilisme aussi, comme
mais
ça.
Mais l'autre part d'enfance, l'enfant sérieux, moi, je pense que tes films touchent l'enfant sérieux qui peut y avoir, disons, 10 ans, 11 ans, peut-être pas 5, 6 ans, tu vois. Et même les gens qui te respectent ou qui ont fini par accepter que tu étais là, une fois pour toutes, ou qui t'admirent ou que tu fais rire, ils ne te parlent pas comme quelqu'un qui parlerait à cette part d'enfance-là. Moi, je sais que c'est celle-là, finalement. Pour moi,
mais ça, par rapport aux arts d'aujourd'hui, au truc, presque plus personne. Enfin, il y a un système d'interprétation du monde qui domine, et puis peut-être ça changera pas, je sais pas. Il y a eu des moments, je pense, certains moments philosophiques ou certains moments artistiques qui sont connus parce qu'il y avait un rapport au monde et une représentation, soit quand Diderot faisait l'encyclopédie ou quand les impressionnistes sont mis à peindre un coucher de soleil d'une certaine façon, il y a eu un rapport, je crois, c'était des grandes personnes. Et le public, là, souvent, a des fois accepté, puis très souvent, en ce qui concerne la vision, on n'a pas accepté d'avoir une vision de grande personne. Mais il faut un ensemble. Après, il y a eu Freud, il y a eu le cinéma. Je crois que le cinéma, c'est mon idée, avec le muet et une partie du parlant, il y avait une vision de grande personne qui commençait à pouvoir être de grandes personnes, en tout cas sous forme d'une grande quantité de personnes, déjà. Et qui était bon enfant. C'était une grande quantité de personnes. Bon, mais c'est des jeux de mots, mais c'est une grande, qui avait un regard bon enfant sur le monde et qui, à cause de ça, pouvait individuellement, après, devenir peut-être des grandes personnes. Et mon idée, c'est que l'État n'en a pas voulu. Ces personnes non plus, elles se sont défilées, si on peut dire.
Tu ne crois pas que dans le cinéma, ça correspond, par exemple, chez nous, à Tati ? Jour de fête, c'est bon
peut-être
enfant.
Tati,
Playtime, déjà, les
gens... Playtime, c'est déjà une plus grande personne, et cette grande personne meurt ruinée. Oui. Mais c'est aussi parce qu'à des moments, l'artiste, suit tout seul et... se suit lui-même tout seul, comme ce général péruvien qui attaquait les Chiliens et qui disait que qui m'aime me suive, et personne ne l'a suivi, il a été fait prisonnier immédiatement.
pour parler justement de cette façon de continuer, parce qu'on ne peut pas ne pas continuer, même si on sait qu'on a moins d'énergie ou que l'environnement est moins favorable, est-ce que ça existe pour un artisan de cinéma comme toi, finalement, pour un chercheur, pour quelqu'un qui est artiste, mais pas seulement artiste, d'où le fait qu'il dérange beaucoup. Est-ce que ça existe une sorte de vitesse acquise où on dit on a moins d'énergie mais on pense un peu plus vite?
Je dirais on pense plus lentement, mais oui, plus vite parce qu'il y a plus à penser.
Mais on sait un peu plus rapidement où est-ce qu'on
va aller. Oui, il y a une vitesse de croisière.
C'est ça.
Il y a peut-être une vitesse de croisière, mais à des moments on a le sentiment qu'on régresse si on reste en troisième alors qu'on a deux vitesses de plus, pour prendre l'image de la voiture, si tu veux.
Parce que je trouve que tout est film depuis S'occuper la vie, donc depuis le retour au cinéma, disons, ils sont très différents. Ils ont aussi un point commun, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même énergie qui vient de quelqu'un qui se dit je vais moins pouvoir compter sur ce qui était le tissu du cinéma, tissu humain, tissu affectif, tissu du public, la production, tout ça. Mais je vais en tirer une sorte de une sorte de gaieté un peu désespérée, ou de punch, ou même de carrément de burlesque. Et c'est pour ça que quand je disais « comment ça va ?», il me semble que ça va bien, ou que les nouvelles ne sont pas mauvaises, c'était à cause de cette sorte de coloration qu'ont tous les derniers films, sauf peut-être « Je vous salue Marie », qui est plus grave, que finalement c'est gai tout ça quand même. Mais d'une gaieté un peu sèche, un peu burlesque.
Oui, ça devrait l'être un peu plus. On rit toujours plutôt après que pendant. Je ne sais pas si un film était aussi fatigant il y a 15-20 ans. Moi, je me dis un peu moins.
Un autre point commun à toute cette dernière série de films, c'est que... Alors moi, c'est une hypothèse que j'ai très très générale, comme ça, sur les films qui m'intéressent encore beaucoup. Il y en a moins qu'avant. C'est qu'ils sont tous obligés...
Mais je crois qu'il y en a pas moins qu'avant. Il y en a à peu près... On peut toujours faire la liste des 10 films de l'année, comme on...
On en trouve 10.
Comme oui. On faisait, tu en trouves 10. Ce qu'il y a, oui. C'est que l'élan vers eux est un peu différent. Il y a un sentiment différent, mais qui vient de l'état du cinéma par rapport à la télévision,
sûr,
qui n'est plus cet élément un peu principal qu'il y avait. Je crois que c'est ça. Sinon, une Atalante, il n'y en a pas une toutes les années, ou des choses comme ça. Entre 5 et 10 films, tu peux en trouver 5 ou 10, je pense.
Oui, à peu près, oui. Et tous ces films, pour moi, justement, ils ont un point commun, peut-être du fait que... Comme la télévision maintenant devient première dans la perception quotidienne des gens, et évidemment des gens plus jeunes qui naissent avec la télévision, on dirait qu'il reste au cinéma quelque chose que lui seul peut maintenant travailler ou chercher ou expérimenter.
Il y a moins gêné. Je dirais, ce qui m'étonne, c'est que les jeunes, s'il y a, je les trouve, ils se gênent. Alors, ouais. Et ça, je comprends pas que ça soit. Si tu prends en France, je sais pas, d'âge plus jeune. Quoi qu'encore, alors moi je me suis toujours considéré comme plus jeune qu'eux. Enfin, je me dis s'il fallait plaider un argument avant la condamnation, je dirais, mais voyez, mais je suis quand même plus jeune que Téchiné, quand même. Je suis plus jeune qu'Assaya, je suis même plus jeune que Carax.
Je pense.
Et des choses comme ça. Non, mais ça vient de quelque chose, c'est que j'ai été. Que vous avez peut-être suivi après, mais qui dans mon cas ne peut, que vous pouvez pas me voir comme ça, c'est qu'on a été élevé, je dirais, chez les maîtres, bon, et qu'on a eu un rapport au maître qui n'était pas un rapport de maître à esclave, qui devait être un rapport, disons, plutôt simple, ou quelqu'un qui peignait les pieds chez Tintoret. Je pense pas qu'il considérait Tintoret comme un énorme génie, plus tellement que lui, si tu veux, quand dans ces tableaux où il y avait une équipe qui peignait, ou des choses comme ça. Bien sûr, il y avait. Mais c'était pas comme ça. Et que moi, j'ai toujours été comme ça, et qui, pour moi, il n'y a aucune. Ou alors, pour prendre la phraséologie grecque, si tu veux, les humains, les demi-dieux et les dieux, Nicolas Ray, pour moi, n'a jamais fait partie des humains. Moi, j'étais humain, lui, c'était un demi-dieu, déjà. Mmh. Mais j'avais ce rapport-là avec mes parents aussi, donc c'est comme ça. Mais c'est quelque chose qui, après, dans la vie, du moins préserve. car j'ai aucune ni fausse humilité, ni fausse admiration.
Bien sûr. Contrairement à ce que tu penses, moi qui suis de la, pas de la génération d'après, mais disons de la demi-génération d'après, la manière dont des gens comme moi ont pu voir des films, c'était un peu ça encore. Je crois que c'est après que ça s'est gâché. C'est-à-dire que on pouvait s'engueuler très violemment à la Cinémathèque sur un film de Griffith, comme si Griffith était vivant.
Et on était à la fois extrêmement pieux, mais totalement immédiateté. Oui, c'est ça pour moi, enfin, je l'ai dit encore récemment, ou hier encore, je veux dire, Max Sennett, Renoir ou Zidi, c'est de la même époque. Mmh. Ça fait une époque qui ne bouge pas et qui me confirme qu'aujourd'hui, justement, ça n'a pas bougé dont on en voit la trace. Je veux dire, une caméra, un micro, un bout de pellicule, fondamentalement, ça n'a pas changé, pratiquement, alors qu'on pourrait penser que par rapport au progrès, ça, et quand on voit comment la télévision, si tu veux, ne fait que recopier toutes les inventions du cinéma ou tout l'inconscient du cinéma encore, que ce soit les rapports acteurs-producteurs, la pub et tout ça. Ça n'a pas encore muté vraiment, je ne pense pas du reste que ça mute comme ça, si tu veux. Non.
Mais est-ce que des gens de ta génération n'ont pas eu la chance, cela étant, de pouvoir prouver qu'on pouvait avoir un rapport assez simple aux gens qu'on admirait le plus.
Donc je pense à Fritz Lang, mais je crois que ça, c'est unique à la nouvelle vague.
Oui, c'est ça, c'est votre génération.
Rossellini ne pensait pas que Griffith, il ne pensait pas qu'il était le contemporain de Griffith, tout en... qu'il était comme ça. Fassbinder ne devait pas avoir le rapport culturel avec Fritz Lang ou avec...
Douglas Sirk
ou Max Ophüls, le rapport, ça c'est très particulier, disons, à deux, je dirais deux ou trois de la nouvelle vague. Moi je dirais Rivette, Romer et moi, si tu veux. François, il était beaucoup plus normal de ce point de vue-là.
Oui, il était plus pieux, il savait mieux où est-ce que lui était par rapport aux maîtres du passé, donc il les admirait, il les embaumait un peu, il les protégeait aussi.
Donc Griffith était un maître du passé, pour moi c'était un artiste d'aujourd'hui. Quand Romer, quand on se connaissait, quand il s'appelait Scherer, qui était prof et qui tournait Bérénice d'Edgar Poe en 16 mm muet, ou la sonate à Kreutzer en 16 mm muet, on ne se disait pas, on fait du... C'était du cinéma d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Alors que Becker tournait à côté, autant Lara aussi. On disait, il y a aussi... nous, on a aussi le droit... Enfin, je ne sais pas, c'était la même chose.
Au fond, ce qui vous a permis de capter un moment le présent de la vie, c'était que le cinéma, de toute façon, globalement, il était au présent pour vous. Alors que maintenant...
Il a toujours été au présent. Oui. Il y a encore, mais on a le sentiment que la tranche...
Beaucoup moins.
Que la tranche de présent est devenue plus une sorte de fil du rasoir, une arête.
Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les films captent peu de choses de l'air du temps, du présent, que même des fois, c'est la télévision qui réussit mieux. Parce qu'elle est plus spontanément branchée là-dessus.
Il est au présent dans la mesure où, oui, mais présent au sens de cadeau aussi.
Oui.
Et que... Oui, et que ça, je suis d'accord, il n'est plus au présent. Et il y a une nostalgie du...
Voilà.
C'est bizarre, parce qu'on dit toujours nostalgie du passé, c'est au contraire...
Du présent.
Il y a une nostalgie profonde du... Sauf, probablement, chez des pays comme l'Islam, la Chine, ou certains, ou d'autres, il y a des... Dans l'Occident, il y a une nostalgie du présent, si on peut dire.
Oui.
Et que l'absence du cinéma, c'est normal.
Parce que ça devient très très difficile maintenant pour quelqu'un de 20 ans de penser qu'il va peut-être faire des films, donc il va faire en gros les mêmes gestes que Griffith, vu que le cinéma n'a pas beaucoup changé. Pas seulement Godard, pas seulement Renoir, pas seulement Gans, mais carrément les débuts du cinéma. Donc ils ont tendance à tout reverser dans la culture, puis à devenir assez ignorants, au moins à la Cinémathèque, assez ignare. Et à se penser comme des héritiers. Mais alors que toi, tu pouvais hériter dans un rapport finalement humain tout à fait normal avec Fritz Lang, de Fritz Lang, maintenant on hérite de l'effet Lang ou de l'effet Hitchcock. Ça a été étudié par les sémiologues, nous-mêmes on y a mis un peu la main à la pâte à un moment, au cahier. Et maintenant, il y a des gens qui connaissent Hitchcock à travers l'effet Hitchcock, mais la personne d'Hitchcock appartient à une espèce disparue. Et on est donc dans une sorte de sémiologie généralisée, mais aussi de nostalgie du moment où tout ça a été perçu comme, en gros, une seule et même aventure, celle du cinéma, avec ses deux jambes, la jambe Lumière et la jambe Méliès. Et ça rend très difficile, même pour des gens comme moi, de déterminer ce qui est la part commune de passé, de culture, etc. Mais est-ce que maintenant, on ne pourrait pas dire, moi je suis totalement d'accord avec ça, la télé n'a fait que gérer tout ce que les cinéastes inconsciemment, les cinéastes un peu inventifs de l'après-guerre, surtout en Europe, ils avaient lancé des hypothèses qu'on croyait bêtement purement esthétiques, elles étaient beaucoup plus générales que ça. La télé s'en est emparée sans les comprendre, elle les gère maintenant d'une façon très aveugle, sauf exception, et on dirait que maintenant le cinéma, il lui reste une chose à faire, c'est soit d'apporter un peu de morale là-dedans, ou un peu de savoir, ou un peu de réflexion, et aussi de filmer ce que la télévision ne filmera jamais. Je pense au ciel, par exemple, parce qu'il y a des ciels dans tous tes derniers films. Le début de Passion, c'est assez inoubliable, parce que je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas de ciel au cinéma. Et on dirait qu'une chose aussi...
Chez les Russes.
Chez les Russes, et un peu chez Kurosawa, par exemple, récemment, il y avait ça. Et donc des choses aussi importantes que le ciel, quand même, même du ciel physique, je ne parle même pas de la métaphore du ciel, ça ne peut pas exister.
Moi, je suis toujours parti de l'endroit où j'étais.
Et maintenant, tu es au ciel, alors?
Non, mais je prends souvent l'avion.
Oui.
Si je prenais le métro, plus... si j'étais à Paris, il y aurait plus de métro.
Avant, c'était plutôt la voiture.
C'était plus la voiture, à un moment donné.
Mais c'est quoi le ciel? C'est un objet que tu rencontres comme ça, concrètement, parce que tu prends beaucoup l'avion, mais c'est aussi un lieu mythologique très fort. C'est aussi un objet esthétique que les peintres seuls peignaient.
Le ciel et la mer, si tu veux. Les bateaux ont beaucoup disparu, si tu veux, aussi. Il reste les bateaux de plaisance ou les yachts, c'est ça, mais le voyage sur mer a disparu. Mais en même temps, on voit mieux que c'est possible sans gêner, si tu veux, sans trop de choses, et découvrir soi-même, ou ce que je dis à Anne-Marie Miéville, par exemple, qui se dit, mais est-ce que je suis faite pour faire ça? Je lui dis, eh ben, il y a 15 ans, tu aurais pu te demander ça, parce qu'il y avait encore un petit système, et qu'au fond, peut-être, la femme que tu es n'a pas à se compromettre là-dedans, comme ça, c'est vrai. On aurait pu dire ça à la femme de Kazan, celle qui a fait...
Barbara Loden,
en disant, eh ben aujourd'hui, c'est dommage que tu sois morte, parce que tu aurais fait Vanda suite, et ça pouvait, le deuxième, comme ça, pas être si désespéré, ou des choses comme ça. Parce qu'il y a plus de, là, on pourrait dire l'inverse. Enfin, il y a plus de gêne, donc il peut y avoir du plaisir.
Oui.
Donc il peut y avoir du plaisir, et même pour les, mais alors là, c'est étonnant, effectivement, mais enfin, ça, c'est eux qui le veulent. Que la télévision, enfin les médias ensemble, tout bien confondu, puisque ça a pris ce pli-là, et qui vient d'ailleurs, qui a annexé le cinéma comme la Révolution française a annexé les biens de l'Église, ou la Vendée, oui, ou des choses comme ça, y a pas gêné. Moi, je redis toujours la même chose, en tout cas pour moi, ça c'est l'époque, trois personnes dans une pièce ou dans la rue, eh ben, c'est possible. C'est possible, et c'est même plus facile pratiquement, les moyens électroniques et des choses comme ça. Si vous voulez faire ça, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, c'est que vous voulez autre chose. Et c'est une question qui ne se posait pas, nous. Parce que c'était un peu difficile, je me souviens, j'ai souvent dit, la libération intellectuelle qui avait été voyage en Italie pour moi, parce que je voyais qu'un homme et une femme et une voiture, on pouvait faire un film. Et comme ça. Avant, un film, c'était quand même, la naissance d'une nation, peut pas se faire tout à coup comme ça. Il faut encore qu'il y ait une guerre civile, qu'il y en ait une, qu'on habite le bon pays, des tas de choses comme ça. Peu importe, Fritz Lang, French Cancan, ça pouvait... Puis tout à coup, il y avait ça. Donc, on dit, ah bon, on peut, bon, caméra coûte cher et comme ça, mais aujourd'hui, non, elle coûte pas cher. Si on n'a pas une copine, ben peut-être on a un copain qui a une copine.
Mais c'est très
j'ai l'impression que ça a disparu.
Ouais. C'est très frappant parce qu'il n'y a jamais eu autant de possibilités de faire des films, soit, comme tu dis, c'est-à-dire à deux ou trois avec des moyens très, très modernes, soit même du cinéma plus cher, parce qu'il y a beaucoup d'argent pour le cinéma en ce moment.
Il y en a de plus en plus.
Il y en a beaucoup plus qu'avant.
Partout, hein.
Alors ce qui manque dans les films, disons, traditionnels, c'est le maillon essentiel, c'est la production. Mais ce qui manque dans le cinéma, qui avant était le cinéma exceptionnel ou underground ou un peu marginal, c'est beaucoup plus grave, c'est le désir.
Je veux dire, si on compare quand même, si on compare Alléluia The Hills à Jim Jarmusch, je sais pas, on peut voir sinon une régression, une marche en arrière. Moi, je pense qu'on va vers le... qu'on est revenu au Moyen-Âge d'une certaine manière.
Jean-Luc Godard, comment tu expliques donc ce fait qu'il n'y a jamais autant de moyens techniques maniables et que même il n'y a jamais autant d'argent tout court pour faire des films, disons, traditionnels? Il y a beaucoup d'argent qui circule. Alors on peut dire que c'est le manque de désir, mais est-ce qu'on peut analyser ce manque de désir ou simplement dire, bon, c'est triste, c'est comme ça, ou comme tu disais, on revient au Moyen-Âge? Ou est-ce que ça veut dire que le désir est ailleurs aussi? Est-ce que c'est pensable que le désir, enfin là où il est dans la société, soit plus vraiment dans les images? Qui est une hypothèse parfaitement envisageable. Une vraie mutation globale des gens.
Probablement, mais pour l'instant, ils n'ont pas trouvé autre chose que les images. Les gens sont pas, même s'ils portent des lunettes plutôt qu'avant... Les enfants portent des lunettes plus tôt qu'avant, et plus il y aura d'écrans d'ordinateur, plus ils porteront des lunettes encore plus tôt, et la vision est moins grande. L'audition est beaucoup moins grande qu'au Moyen-Âge, je veux dire. Un son, on s'en rend compte même chez les architectes de salles aujourd'hui, qui sont moins bons simplement parce qu'ils n'entendent pas. Je discutais avec un architecte de cinéma, parce qu'il y a une salle que j'ai refusée, parce qu'elle était... Il y a une possibilité d'un autre, parce qu'on n'entendait même pas. Je disais, bon, mais il y a trois choses à faire venir. Bon, l'acousticien, puis ensuite, il faut faire venir un musicien de rock, et puis le faire écouter, un musicien classique, le faire écouter. Vous faites peut-être un professeur, non. Et puis ensuite, vous faites venir un paysan, et vous lui faites entendre quelques sons. Et puis, il vous dira, ben, j'entends pas. Et donc il y a une baisse d'écoute aussi, parce que il y a peu d'endroits où on n'entend pas le bruit de fond. Et à cause de ça, du reste, la technique invente des enregistrements où il n'y a plus de bruit de fond. Mais on les écoute ensuite dans une pièce où il y a un bruit de fond perpétuel. Donc on a échangé... Et qu'est-ce qu'on a échangé? Une carpe contre un lapin.
Mais tu as dû poser toutes ces questions au moment où tu t'es beaucoup intéressé à la vidéo, puisque la vidéo, c'est... beaucoup plus que de l'image, c'est quelque chose de tactile.
Ah oui, non, c'est ça, là, on en était, mais...
C'est le tact,
l'image,
c'est
non seulement... Oui, l'idée de l'image qu'a apporté à un moment le cinéma muet, qui n'ont pas, où une image n'est qu'un ensemble, qu'avait apporté à la longue la poésie, et puis que... Effectivement, alors que le... On dit qu'il y en a de plus en plus... On dit qu'il y en a plus en plus, donc ils sont un peu perdus et ils n'ont plus un point de référence. Le miroir le matin est probablement, quand on se regarde dans la glace, pour les gens, est beaucoup moins un point de référence que, à mon avis, que ça devait l'être il y a longtemps. C'est des choses que des fois des philosophes comme quand Guillaume étudiait, quand il y a des découvertes et qu'il regarde d'où part la découverte exactement. Moi, je pense que, par exemple, une émission de télévision, pour qu'on parle, la radio, on parle mieux en général. Là, on parle moins bien qu'à la radio, parce qu'on n'est pas dans le noir et qu'on est chez soi, donc c'est pas la même chose. Ou alors, il faudrait être chez soi, mais un bureau... Mais la télévision, je pensais, quand j'ai vu cette émission sur Heidegger, par exemple, qui sont pas mal parce qu'on laisse des penseurs qui sont... d'honnêtes penseurs, et qu'à des moments, il y a quelque chose qui...
Ils ont fait un effort ce jour-là.
Mais quand même, à des moments, bon, c'est pas qu'ils passaient pas... Il n'y avait jamais de photo de quelque chose, donc à un moment, ils se perdaient en route, parce qu'il manquait d'un guide Michelin de la pensée, si on peut dire. Mais surtout, je m'étais dit, tiens, moi, ce que j'aurais fait, c'est je les aurais fait, bon, autour de la table, et j'aurais essayé, sur une émission comme ça... chacun de leur mettre un grand miroir devant, ce qui fait qu'ils ne voyaient pas l'autre. Et qu'en fait, l'élocution, et donc la pensée, puisque c'est une élocution, qui est, l'élocution là, est une sorte d'image de la pensée, si on se voit parlant, pendant un moment aussi, il faut varier, ensuite il faut voir l'autre, mais si on se voit parlant, on peut s'entendre parler, se voir parler, soi-même est tout à fait différent. Et pour les caméras, ça n'aurait rien changé, parce qu'ils auraient filmé l'image dans le miroir, donc ils voyaient la personne, ça ne changeait rien. Mais je pense que Fay ou Glucksmann, peut-être moins Fay, mais Glucksmann en particulier et d'autres, ils ne pourraient pas avoir cette voix assurée s'ils se voyaient, se voyaient enfin, moi non plus. Mais dans la mesure où il a une pensée relativement ferme, elle aurait été à la fois plus mouvante et plus ferme, et ce serait développé.
C'est ça.
Ce qui fait qu'au bout d'une demi-heure de discours, il y a des trouvailles. Tandis que là, aucun n'a avancé dans son domaine.
Non.
Alors ça, c'est la grande différence, si tu veux, entre le cinéma et la télévision, et qui sera, toujours.
Oui.
Même Zidi avance dans son domaine, en avant ou en arrière, mais...
Parce qu'on pourrait dire que la télévision, même dans une émission comme celle-là, qui était plutôt une bonne surprise, la télévision, c'est, ça encourage les rapports de force.
Ah oui, oui.
Le jeu question-réponse, le champ contre champ, sans parler des médiateurs qui font plus ou moins bien leur boulot, en général plutôt mal, ça aggrave simplement celui qui, Glucksmann est un bon exemple, qui peut le mieux, de manière assez péremptoire, dire voilà, je dis ça et c'est la bande-annonce de ce que peut-être je pense, mais on n'aura jamais ce qu'il pense. Parce qu'on ne donnera jamais à Glucksmann, vu qu'il n'est pas encore...
Mais le cinéma, je commence à le penser, je veux dire, comme ça, le cinéma c'est quelque chose d'agréable et c'est ce qu'aiment bien les gens. Et c'est que c'est de la pensée. C'est de la pensée comme le monde est une pensée. Enfin, alors là, c'est, on est dans le truc le plus bête qui vient des Grecs, et c'est ça. Là. Et Aristote ne pense pas. Par contre, il dit comment il voit que le monde pense. Moi, pareil aussi. La télévision, la presse, c'est différent. C'est du discours, politique sous une certaine forme.
Ouais.
Et la télévision, c'est des canaux qui transmettent ça. Et du reste, ils l'avouent, ils le disent tout à fait franchement. C'est autre chose, c'est même fait pour vendre. C'est pas du tout la même chose. Moi, je sens une angoisse, dès qu'on parle, une angoisse très grande. Les seuls gens avec lesquels on pourrait vraiment discuter, mais ils sont dans une telle discipline, je trouve, c'est les analystes honnêtes. Des gens comme Dolto, je parle de l'exemple le plus connu. Et bizarrement, on ne peut pas parler avec eux parce qu'ils sont dans une telle direction de parole que toute conversation est futile. Ils ne peuvent parler qu'au moment de la guérison, au moment de l'acte. Mais après, on ne peut pas. Et moi, je le dis, le cinéma est fait pour ça. Et on ne peut pas.
Oui, c'est un petit peu ce que je disais.
Je veux dire, Dolto, quand j'ai parlé le peu, j'ai parlé avec elle, puisque c'est parti d'un scénario d'elle, Je vous salue Marie, elle m'a bien fait comprendre, mon jeune garçon, à vous de vous analyser. C'est-à-dire, soit vous venez chez moi, ou chez ma fille, ou chez un tel, vous faites votre analyse. Mais si vous venez me parler de votre film, et là, c'est, si je parlais à un policier ou à Marchais, c'était la même chose. Et or, pourtant, ça n'en est, c'est loin d'en être. Et là, j'étais... très décontenancé et disais, ça m'a aidé à repartir pour un tour en disant bon ben il y a d'autres gens et puis je les rejoindrai peut-être un jour ou des choses comme ça.
Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur, on dirait que l'une des cartes ultimes du cinéma en ce moment, c'est d'analyser quelque chose, soit auto-analyse, soit analyse du public, soit analyse des médias, parce que les médias ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas se regarder eux-mêmes, c'est impossible. Et toi, ça fait assez longtemps que tu es dans une position d'analyste par rapport
au... J'ai plutôt commencé, alors si ça va bien, je dirais, ayant plutôt commencé par ça, je me dis, ben, je peux peut-être m'en libérer, parce que moi, j'ai donné là-dessus, je peux peut-être enfin faire ce que des autres ont fait, que je ne savais pas faire, mais ayant fait ça, je peux enfin peut-être faire du Zidi bien.
C'est-à-dire que tu penses qu'une fois, passé par ce stade analytique, il te resterait à faire des films comme Zidi et non pas à faire des films, disons, plus personnels, comme on dit, c'est-à-dire à revenir à un genre, à quelque chose de codifié.
Il
ne
faudrait pas dire Zidi, il faudrait mieux dire, je ne sais pas, Delberman ou...
Oui, enfin, c'est du cinéma quand même industriel, finalement. Tu es passé par un long détour...
Oui, mais il ne peut être que ça. J'ai fait beaucoup avant de ce qui, en informatique, s'appelle les logiciels. eh bien, je peux passer peut-être au... et qui font des programmes. Mmh. Eh bien, ayant travaillé beaucoup sur le programme, je peux faire des logiciels autrement. Qui fait qu'on peut faire d'autres programmes, ce qui est quand même de ce qui s'appelle la recherche fondamentale, mais en narration. Bien me sûr. Sens plus proche de... Je peux peut-être arriver à commencer, et c'est le fait du reste, à lire Mallarmé, sérieusement, et à me...
Bon, donc on a évidemment effleuré 50 problèmes essentiels, mais j'espère avec un peu de modestie. On a évidemment... C'est le vice de ce genre de procédure, pas parler directement de Soin de la droite, mais je pense qu'on peut le faire la semaine prochaine avec Jean-Luc Godard. Donc, à la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.
La première partie des entretiens de Jean-Luc Godard avec Serge Danet pour son émission Microfilm a été diffusée pour la première fois le 27 décembre 1987. À suivre.